Je suis le chef d'escadron de Souza à Kandal. Je suis un officier de l'arme blindée cavalerie. Je suis actuellement le commandant de la 9e compagnie d'infanterie mécanisée du Bénin, ici basée à Bamako, au Mali.
Et donc, peut-être justement pour commencer, vous pouvez nous dire combien de temps le contingent béninois est au Mali, justement?
Notre contingent est arrivé depuis le 26 mars dernier. Nous sommes arrivés en deux vagues. La première vague est arrivée le 26 mars et la deuxième est arrivée le 18 avril 2021.
Ça fait 2 mois, d'accord, très bien. Donc, vous pouvez nous dire quelle est la grandeur justement du contingent et avez-vous des femmes, des hommes, en quoi consiste ce contingent?
Oui, mon contingent est de 250 personnels. Nous avons 13 officiers, 78 sous-officiers et 159 militaires du rang. Ce contingent a des femmes également. Nous avons 25 femmes, dont un officier et 5 sous-officiers, et le reste, c'est des militaires du rang.
Donc, bien sûr, la MINUSMA est une mission dangereuse, on le sait, c'est l'une des missions, je pense, la plus dangereuse des Nations Unies. Donc, comment votre contingent fait face à tous les défis, justement, sur le terrain?
Ben, justement, pour faire face à tous ces défis, tout ce que nous essayons de faire, c'est de mettre l'accent sur l'instruction et les exercices. L'instruction pour nous assurer que nos soldats ont toujours les compétences nécessaires pour accomplir les missions qui nous seront demandées. Les exercices, surtout pour nous assurer que nous sommes en mesure de réagir à tous les types d'incidents, tous les scénarios possibles auxquels on pourrait être confronté ici au Mali.
Et vous avez des exemples justement d'exercices ou de formations?
Donc, ici au Mali, nous entraînons sur tout ce qui est défense de base. Donc, très régulièrement, nous faisons des exercices de défense, par exemple du MHQ, ici, parce que nous avons comme tâche de sécuriser le quartier général de la mission. Donc, régulièrement, toutes les 2 semaines, nous effectuons ces exercices avec différents types de niveaux d'alerte pour habituer nos soldats à pouvoir être en mesure de réagir en cas d'attaque de ce MHQ. Nous faisons également d'autres types d'exercices, tout ce qui est contrôle de foule. Ce n'est pas notre mission première, mais on est aussi appelé à pouvoir être en renfort à tout ce qui est unité de police au cas où ils seraient débordés. Donc, nous faisons des exercices également pour nous apprêter à pouvoir leur venir en renfort. Donc, tout ce qui est maintien d'ordre, nous le faisons également. Nous faisons également des exercices de tir pour nous préparer à pouvoir réagir efficacement, avec précision à tout ce qui est menace. Également des exercices de tout ce qui est escorte de convoi, parce que nous avons également pour tâche d'en assurer sur ordre. Et tout ce qui est également protection VIP, parce que nous avons aussi tâche de venir en suppléance ou carrément en renfort aux unités de police si l'ordre nous était donné de le faire. Donc tous ces exercices, nous le faisons régulièrement pour que les soldats puissent être toujours un peu au fait des exigences, des compétences qui leur seront demandées dans la réalité.
Et on sait que justement le pays est un pays assez difficile avec de nombreux conflits inter au pays. Quelles sont justement les structures ou les logistiques en place pour aider les casques bleus de votre contingent à surmonter les défis, donc émotionnellement ou personnellement, comment vous les aidez justement?
Justement, pour les aider, nous nous appuyons essentiellement sur deux structures, on va dire. Nous avons la structure, un service welfare, donc tout ce qui est bien-être, et un bureau sport. Le service welfare nous aide essentiellement à pouvoir organiser des activités, tout ce qui est activités récréatives au profit de la troupe, nous assurer que ils ont les liaisons téléphoniques et les connexions Internet qu'il leur faut pour rester en contact avec leur famille, pour se distraire, échapper un peu à la monotonie de la mission. Nous organisons également très régulièrement des jeux. Le sport est tout le temps programmé pour que les gens puissent se défouler, s'exercer. Nous organisons également des jeux, des compétitions entre nous et bien sûr des activités, des animations culturelles. Vous savez, notre pays a beaucoup de culture, nous avons beaucoup de chants et de danses, donc nous essayons d'en faire chaque fois que se peut pour que les soldats ne se sentent pas trop dépaysés par rapport à cela. Voilà. Donc c'est essentiellement ça que nous faisons pour nous assurer que les gens restent toujours concentrés dans la mission et non l'esprit ailleurs.
Est-ce qu'il y a des supports psychologiques pour certains soldats s'ils ont des problèmes de, disons, de dormir ou vu que la situation est difficile, est-ce qu'il y a justement des structures pour cela?
Au sein de la compagnie, nous n'en avons pas, mais notre cellule médicale, très régulièrement lorsqu'elle reçoit de ces genres de cas, en réfère directement à des niveaux supérieurs, le niveau 2, pour avoir les compétences nécessaires. Parce qu'on n'en dispose pas, on n'a pas de psychologue à l'intérieur de la compagnie. Donc, on en réfère simplement aux structures de l'ONU, ici, de la MINUSMA, pour avoir gain de cause.
Et avez-vous pu être témoin de moments réjouissants ou satisfaisants sur le terrain? Et pouvez-vous justement nous donner des exemples?
Oui, il y en a eu quand même quelques-uns depuis que le contingent est ici, ça fait quand même pas mal d'années. Donc, souvent, nous essayons d'organiser des activités, des projets à impact rapide, que ce soit de petites constructions ou bien de réalisation de moulins ou carrément du soutien logistique aux organisations de diverses activités. Nous avons par exemple plusieurs associations de jeunes qui sont dans la zone de Bamako ici et plus particulièrement à Sénou ici également, qui viennent nous solliciter pour des appuis logistiques de tout genre pour leurs activités. Donc, c'est toujours avec gaieté de cœur que nous les assistons avec tous les moyens logistiques dont nous disposons. Également, nous engageons parfois, par exemple, au profit des cas un peu malheureux, je vais dire, par exemple, les orphelins de militaires décédés au combat ici, surtout les Maliens. Nous essayons de venir en appui à leurs enfants à travers des distributions de kits scolaires, tout autre genre de soutien qu'on peut leur apporter pour décocher ne serait-ce qu'un sourire ou bien nous assurer qu'ils ne se sentent pas isolés, qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Bien sûr, nos moyens restent très limités, mais nous avons déjà quand même une grande satisfaction en nous sentant proches de cette communauté-là qui est autour de nous.
Et la communauté malienne vous accueille bien, votre contingent?
Très favorablement, très favorablement. Nous sommes très surpris. Il y a peut-être la barrière de la langue, mais les cultures restent plus ou moins proches et beaucoup de ceux-là également ont des contacts très étroits avec des Béninois. Donc, c'est toujours un échange convivial qu'on a avec eux. Lorsqu'on les rencontre, ils parlent de notre pays, nous leur disons également ce que nous apprécions chez eux ici. Donc, la collaboration est plutôt très fraternelle, très conviviale. Nous avons de très bonnes relations avec toutes les autorités ici, que ce soit les maires, les associations de jeunes. À tout moment, quand nous sortons, nous nous sentons plus ou moins à la maison chez nous ici.
Et je vais vous poser une question plus personnelle. Pourquoi avez-vous choisi d'être casque bleu?
Bien, la paix dans le monde est essentielle pour le développement, vous savez. Sans la sécurité, il ne peut pas avoir paix. C'est impossible. Sans sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas paix et donc il n'y a pas de développement. Pour nous, donc, c'est étant militaire, mettre nos compétences de militaire, de soldat, donc, au service de cette paix, en fournissant la sécurité nécessaire pour instaurer les conditions essentielles au développement, c'est toujours avec satisfaction, c'est toujours un honneur en fait. Tout le monde n'a pas cette opportunité de le faire. Donc si nous, on a eu cette chance d'être appelés à le faire, on le fait avec grand plaisir, avec très grande satisfaction. Dans le cas-ci, par exemple, du Mali, c'est toujours une grande fierté pour nous, je vais dire une grande joie d'être ici au Mali, en train d'assister un pays frère qui est en difficulté. La situation qui prévaut ici au Mali, si elle n'est pas contenue, elle va très rapidement s'étendre à tous les autres pays. Et donc, nous-mêmes, très loin, nous ne sommes pas en sécurité si nous n'arrivons pas à vaincre le mal ici à la base.
Et si quelqu'un désire devenir soldat de la paix, qu'est-ce que vous lui direz?
Allez-y, à fond, à fond, à fond. C'est une très noble vocation et il n'y a pas meilleure manière de servir l'humanité tout entière. S'il n'y a pas de paix quelque part dans le monde, il y aura de la tristesse, il n'y aura pas de développement, il y aura tous les maux, tous les fléaux que nous redoutons. Une seule personne, un seul être humain qui n'a pas ce qu'il faut, qui n'a pas cette paix, c'est l'humanité tout entière également qui est concernée. Et donc, pour toute personne qui veut être au service de la paix, qui veut être casque bleu, je lui dirais simplement, go, 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 go. Il n'y a pas meilleure chose au monde.
Et est-ce que vous avez de la famille au Bénin qui est restée là-bas? Est-ce que c'est difficile pour vous d'être au Mali alors que vous êtes du Bénin? Est-ce qu'il y a des moments difficiles pour vous?
Certainement, cela ne manque pas. Cela ne manque pas. Pour moi, personnellement, oui, j'ai de la famille, j'ai une femme et deux enfants. Et j'essaie de temps en temps de rentrer en contact avec eux dès que j'ai un peu de temps après le boulot. Et c'est toujours un peu difficile pour eux de me savoir loin, pas proche d'eux, être en mesure de pouvoir les aider ou bien d'être présent physiquement dans leur vie. Mais ici, j'ai beaucoup de collègues, beaucoup de frères, des gens avec qui j'ai eu à vivre pendant longtemps, avec qui j'ai eu à travailler pendant longtemps. Donc, du coup, j'ai une sorte de seconde famille ici, dans laquelle je suis et je m'en contente pour l'instant.
Mais ça ne doit pas être toujours très facile, ni pour vous, ni pour votre famille, n'est-ce pas?
Non, non, non.
Et vous faites un travail noble, n'est-ce pas?
Je suis très content et je crois que je suis très content de savoir que je suis au Mali en train de faire une très grande tâche, une noble tâche. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir abandonner sa famille comme ça et d'aller loin, se battre pour une cause qui dépasse même l'individu lui-même. Donc, ils sont plutôt contents, ils sont honorés, ils sont fiers que ce soit leur papa ou leur époux qui soit en train de diriger ce contingent et donc de donner le meilleur de lui-même pour aider le Mali.
Et on parle beaucoup de la part des jeunes dans le maintien de la paix et des casques bleus. Est-ce important d'avoir justement des jeunes qui viennent dans la famille des casques bleus et pourquoi?
C'est fondamental, c'est essentiel. Les jeunes sont les premières victimes souvent de la radicalisation. Quand vous voyez tous les personnels, que ce soit les insurgés ou les djihadistes, la plupart c'est des jeunes. Donc, emmener les jeunes dans la famille des casques bleus, c'est justement amener leur perspective également, leur façon de voir le conflit. Et donc, c'est essentiel même à la résolution du conflit. Les écarter de cette résolution va certainement nous faire perdre des aspects importants de cette résolution et cela ne va pas nous servir de façon durable. Donc ces jeunes, s'ils doivent venir, ils sont les bienvenus, ils doivent être accueillis et on doit faire en sorte qu'ils soient bien plus nombreux que ce qu'on voit actuellement. Voilà.
Y a-t-il un certain nombre de jeunes parmi le contingent béninois?
À près de 90%, je dirais, on n'est que des jeunes. Parce que déjà, avec les limites d'âge de service chez nous, cela impose que nous ayons toujours une armée très, très jeune. Donc, pas mal. Disons plus de 90% de mon personnel a en dessous de 40, 40, 45 ans. Donc, c'est vraiment des jeunes, des gens qui sont encore dans la fleur de l'âge, qui ont de la vigueur, qui ont de la force. Et donc, on va s'en servir au maximum au service de cette paix, de cette cause ici au Mali.
Commandant de Souza, est-ce que vous avez un message en dernière question?
Mon message serait juste qu'il ne faut pas abandonner. Le Mali est en difficulté. Le monde entier a la lourde responsabilité de l'assister. Qui que ce soit, où que nous soyons, si nous avons les moyens, si nous avons les possibilités, les opportunités d'assister la MINUSMA ou bien l'ONU de façon générale à pouvoir résorber cette crise, il ne faut pas hésiter un seul instant. Parce que hésiter aujourd'hui, c'est que demain, cela va nous revenir dessus. Et ce n'est pas bon. Nous devons l'éviter.
Commandant de Souza, merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir pris le temps d'être parmi nous à ONU Info. Et bonne continuation, bon courage et merci pour le travail que vous faites sur le terrain.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir a été le mien.
Merci.
Merci.
Merci.